Mission Vision est produite en partenariat avec le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Mission Vision avec Alain Renaud.
Bonjour, bienvenue à ce 7e épisode de Mission Vision, réalisé en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, une émission toute spéciale consacrée à un tout nouveau et tout beau calendrier accessible des arts de la scène. Et pour l'occasion, je reçois deux invités qui ont grandement contribué à sa réalisation. Donc, avec un énorme plaisir que je reçois aujourd'hui Owen Nguyen et Evelyne Payette pour parler du lancement et de la mise en ligne d'un nouveau calendrier recensant des spectacles offrant divers types d'accessibilité pour des spectateurs vivant avec un handicap. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je salue Owen. Bonjour, Owen.
Bonjour Alain.
Merci d'être ici. Et bonjour Evelyne.
Bonjour.
Evelyne Payette, chercheuse et doctorante.
Oui, beaucoup de choses. Oui. Chercheuse, doctorante.
je pense que je vais vous laisser vous présenter. Comme ça, je ne dirai pas de niaiserie. Ben Evelyne, donc si tu veux te présenter aux auditeurs, plus loin.
Ben oui, moi je suis comédienne de formation. J'ai accroché mon masque il y a de nombreuses années. Et je suis tombée dans la médiation culturelle pour laquelle j'ai eu un coup de foudre. J'ai travaillé longtemps en médiation culturelle, développement de public, coordination de relations avec milieu scolaire dans des théâtres jeunes publics. Puis, suite à un diagnostic de deux de mes trois enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, puis quelques expériences qui en ont découlé, puis aussi dans mon milieu de travail, je me suis intéressée à l'accessibilité des arts vivants.
Okay.
Et je suis devenue conseillère en accessibilité culturelle et formatrice aussi. Puis je suis aussi doctorante en études et pratiques des arts à l'UQAM.
Okay.
Puis, oui, c'est ça.
On va glisser un mot plus oui, en oui, c'est profondeur ça. Tantôt.
Oui, c'est ça.
Je veux pas que tu dévoiles toutes les punches. puis, ben, Owen Nguyen de Altergo, je peux le dire.
Oui, oui, oui. Je suis conseillère en accessibilité universelle, donc j'ai un CV un peu moins impressionnant que vous. Je travaille dans le département de l'expertise chez Altergo. C'est sûr qu'Altergo est connu pour le défi sportif, par exemple, mais moi, je fais partie des geeks. Uh-huh. Alors, tout ce qui est, par exemple, la rédaction de politique, les plans d'action pour les municipalités, pour l'intégration des personnes handicapées, ben, c'est moi, c'est mon département qui faisons ça.
OK.
Ouais, donc, on est moins connu, c'est un petit peu moins glamour que le défi sportif, mais c'est quand même vraiment le fun de travailler.
OK, super.
Ouais.
Fait qu'on, aujourd'hui, on a un peu une rencontre entre... le sport adapté, la défense des droits par mon poste au RAM, et puis Evelyne, on parlerait de théâtre.
Accessibilité
culturelle. Dans les arts de la scène.
Oui, oui.
Fait qu'on a une rencontre, là. Arts de la scène, sport et défense de droits. je demanderais à Owen si tu veux nous présenter un peu ce projet-là de calendrier, enfin les deux, tu pouvais, je demanderais à Owen de nous présenter qu'est-ce que c'est exactement ce calendrier dont on parle aujourd'hui.
Oui, bien avant même de parler du calendrier, je vais parler d'où il vient.
OK, oui.
Parce que ça part d'une initiative, en fait, entre autres de Erika Malo du Rideau Vert, qui a organisé une communauté de pratique des théâtres. Justement parce que l'accessibilité est un enjeu pour avoir accès à la culture et tout ça. Et on est rendu là aujourd'hui, en 2024, parce que c'est pas juste par nécessité qu'on veut avoir accès à quelque chose. On veut aussi se divertir, on veut faire les choses comme tout le monde. Donc, je dis « on » parce que je suis une personne paraplégique aussi. Donc, je le prends aussi un peu dans le personnel.
Oui.
Donc, elle a parti de cette communauté de pratique-là avec quelques théâtres au début, et là, ça grossit et ça grossit. Et on s'est rendu compte qu'il y a une demande pour des spectacles qui sont adaptés, donc que ce soit des spectacles avec audio description ou avec interprète en langue des signes, langue tout ça. Et de fil en aiguille, on est arrivé avec plusieurs théâtres qui ont justement adapté des spectacles. Et on s'est dit, mais ce serait vraiment le fun d'avoir ça dans un calendrier où ce qu'on pourrait voir, c'est quoi, où sont les spectacles qui sont adaptés, quel type d'adaptation que c'est. Puis, on s'est ramassé avec, en fait, avec toi, Alain, puis Evelyne, le trio infernal. Puis on a travaillé là-dessus, où ce qu'Evelyne a rassemblé toutes les données des différents théâtres avec leurs spectacles, leurs adaptations et tout ça. Puis on a fait un calendrier qui est hébergé sur le site d'Altergo en ce moment, altergo.ca, voilà. Où ce que vous pouvez aller consulter, ça va de quel type d'adaptation que c'est, le titre, quel théâtre, que c'est, tous les renseignements au niveau de la billetterie, comment s'y rendre, vous allez, c'est tout rassemblé dans une place.
Donc, juste pour revenir sur la communauté, j'ai reçu Erika Malo, il y a deux émissions de cela, donc si quelqu'un veut en savoir peut-être un peu plus sur... La genèse de la communauté de pratique, c'est comme ça qu'on appelle ce regroupement de théâtre de Montréal, mais aussi des théâtres de Québec, puis de différentes compagnies des arts de la scène, là, donc qui se réunissent et qui échangent et partagent justement tout ce qui est accessibilité pour les différents publics. Donc, depuis le début de la communauté, il y avait cette idée là, justement de réaliser un calendrier qui rendrait accessible, rendrait accessible l'offre qui est de plus en plus nombreuse. Et puis, c'est ça de mon côté, avec le RAM, j'avais déjà, à l'automne dernier, travaillé avec sur un projet qu'on a mis en ligne un calendrier, mais avec spécifiquement les représentations pour personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc, c'est les représentations avec audio-description et visite tactile. Mais le but premier de ce projet de calendrier à la base avec la communauté, c'était de faire un calendrier avec tous les représentations accessibles. Et puis, Evelyne, c'est toi qui a recensé finalement l'offre pour pouvoir la mettre en ligne sur le calendrier.
Oui, j'étais vraiment surprise. C'était quelque chose qui m'intéressait parce que dans la recherche que je fais en ce moment pour mon doctorat, c'était les publics en situation de handicap ou en diversité capacitaire, c'est une des choses qui demandait le plus, c'était ce qui revenait tout le temps, c'était regrouper l'information. On est obligé de chercher... c'est très énergivore, ça demande beaucoup de temps, trouver toutes les informations, on aurait besoin d'un endroit, puis c'était une des revendications qui était la plus, qui revenait le plus souvent. Donc, moi, j'étais vraiment intéressée de me pencher là-dessus puis de collaborer là-dessus parce que je voulais voir comment on pouvait faire ça. Puis en colligeant toutes les données que les théâtres nous envoyaient, j'étais vraiment... mais même, je me rappelle en réunion qu'on s'était dit que peut-être il n'y en aurait pas autant, mais... Et il y en a eu énormément, puis ça m'a rempli de joie, là, parce que ça veut dire que l'offre pullule et dynamique, et puis même moi, je n'étais pas... qui est plongée là-dedans, je ne savais pas qu'elle était aussi large. Puis je trouve ça vraiment réjouissant, là.
Super.
Oui.
Et puis, comme tu disais tantôt, Juan, c'est Altergo qui a offert pour ce départ de ce calendrier-là de l'héberger. Comment ça s'est passé avec... parce que c'est ça, on parlait tantôt, quand même, Altergo est plus dans les loisirs et le sport. Oui. Et puis là, on fait un pas dans la culture, les arts et la culture, dans le fond.
Oui, exactement. Mais en fait, Altergo cherche à être de rentrer un peu plus dans la culture. On pousse un petit peu de ce côté-là. Mm-hmm. Puis en fait, le calendrier nous sert de projet pilote, justement, pour voir... l'achalandage, si nos membres sont intéressés à le consulter, s'ils le trouvent bien. Et là, en ce moment, c'est sûr que c'est la version bêta, si on veut, la version zéro.
0.1.
Ça va... Ça va s'améliorer avec le temps, c'est sûr. Et évidemment, on est en recherche de financement pour avoir quelqu'un qui est responsable du calendrier, qui va pouvoir mettre en place un logiciel ou un programme. Moi, l'informatique, je ne connais rien. Le site web, je ne comprends pas. Mais juste avoir un système pour que les théâtres puissent justement juste remplir les données. Puis le calendrier se mettrait à jour automatiquement, puis on n'est pas obligé manuellement de remplir le calendrier.
C'est ça.
Ça serait notre rêve. Donc, mais pour ça, il faut du financement. Pour l'instant, on le fait gratuitement, à la main, parce qu'on y tient. On trouve que c'est vraiment une excellente idée, puis ça va nous permettre justement d'avoir du feedback, tu sais, des gens qui vont consulter le calendrier, comment on peut améliorer ça dans le futur, mais dans un futur proche. En plus, c'est tellement flexible en ce moment. C'est ça qui est vraiment motivant, là.
OK. Puis, on peut souligner le travail de ta collègue, Émilie.
Oui, Émilie, oui, du département des communications, qui a vraiment poussé vraiment fort aussi pour que ça sorte pour aujourd'hui même.
C'est ça.
Oui, c'était écrit dans le ciel.
Parce qu'on a failli enregistrer l'émission. Sans que le calendrier soit encore en ligne.
Exactement, donc ça a tombé très, très bien que ça soit sorti.
Super alignement de planètes.
Oui.
On est vraiment chanceux.
Oui.
Juste me répéter, on va le voir, on va le chercher sur... À quelle adresse encore?
C'est altergo.ca.
Et puis on va le trouver...
On va le trouver dans les événements.
Dans les événements.
Oui.
OK. Et puis, c'est ça, c'est sûr que moi, c'est la même problématique là, au RAM, où nous, on est vraiment une toute petite équipe. Et puis, l'avantage avec ce type de calendrier-là, c'est que les compagnies de théâtre font leur programmation une fois par année.
Mm-hmm.
Alors, tout arrive en même temps, et puis on n'a quand même pas tant de travail pendant le reste de l'année. Le travail se fait, je me souviens, je suis tellement nouveau dans le domaine, à quel moment sort les programmations.
Les programmations, d'habitude, ça sort au printemps.
Au printemps,
ouais,
c'est
en
ça.
Mai à peu près, ça
Excuse-moi,
sort.
Excuse-moi.
Non.
Je balbutie. Mais oui, non, c'est ça. C'est, donc, en ce moment, les théâtres, la plupart des programmations sont en train d'être préparées et rapidement, au printemps, comme l'année dernière, c'est ça, j'ai reçu, on a mis notre calendrier en ligne, donc... au mois d'août, j'avais toutes les programmations presque qui étaient prêtes à être diffusées puis à être mises en ligne. Mais effectivement, il faut quand même trouver... c'est quand même peut-être moi avec mon calendrier, pas moi, mais nous, avec notre, avec notre calendrier pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. On a un peu moins de programmation, un peu moins d'offres, mais avec le calendrier, le nouveau calendrier de la communauté, là, on s'entend qu'on a énormément de... d'offres puis de diversité là, dans les possibilités de... Ben, peut-être qu'on peut... oui, on pourrait en parler. On a combien, je pense, Evelyne, on peut quand même assez définir les... On a 6 ou 7 types de...
Le nombre, je pourrais... Oui, à peu près, je dirais...
Juste si on les décrit là, rapidement.
Oui, il y a de l'audiodescription, évidemment, ou de la théâtrodescription, des fois, c'est synonyme. Là.
Ouais.
L'audiodescription chorégraphique, les oreillers vibratoires, ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau.
Okay,
je pourrais vous en parler.
Oui.
Je pourrais vous en parler tantôt,
okay,
peut-être.
Parfait. OK, super.
Ensuite, il y a les représentations décontractées, représentations sensoriellement adaptées, qui sont similaires dans les protocoles, mais pas semblables dans les intentions de départ.
OK. Est-ce qu'on en parle tantôt?
Oui, quand tu veux.
Non, mais je veux dire,
c'est ton...
Oui. Je pense qu'on va en parler tantôt.
Oui.
On peut juste finir de...
Oui, il y a aussi des spectacles en ASL ou LSQ, des spectacles avec sous-titrage, sur-titrage, et puis il y a des découvertes tactiles, visites tactiles qui d'habitude accompagnent les audiodescriptions, les spectacles en audiodescription, quoique il y a des théâtres qui peuvent offrir juste des découvertes tactiles seules, mais au Québec, c'est pas mal accompagné de l'audiodescription. Ouais.
OK. Fait qu'on peut, on peut prendre une petite pause pour une petite gorgée d'eau et puis on peut revenir justement peut-être avec un petit peu plus de détails sur ces... Parce que c'est pas tout le monde non plus. Là. Moi, les décontractés, tout ça, pour moi, c'est quand même assez intriguant. Peut-être tu pourrais nous en parler petit peu plus en détail après notre courte pause. Je vous reviens avec Oanne Nguyen de Altergo et Evelyne Payette, chercheuse, doctorante et... Ma mère de famille. sommes de retour avec Owen Nguyen de Altergo et Evelyne Payette. Nous présentons un nouveau calendrier. Est-ce qu'on l'a nommé ce calendrier, Owen? Est-ce qu'on lui a donné un nom spécifique sur le site d'Altergo?
Non, on avait pensé à Roger, mais ça...
c'est bon.
Ça faisait pas très sérieux. Donc, un nom, ça reste Calendrier événement culturel de Montréal.
OK.
Pour l'instant, mais...
OK, mais on n'a pas mis un petit mot
accessible. Je pense... Oui, c'est ça, des calendriers des événements accessibles. Oui, culturels. Donc,
important
oui, c'est ça.
De souligner.
Mais ben, oui.
Je répète là, qu'il est sur le site d'Altergo.
Oui.
Et on va le chercher dans événements.
Oui.
Ça, c'est toujours quand même, il y a toujours un petit lien.
Sinon, il y a toujours l'onglet recherche direct, là, puis vous mettez calendrier, puis ça va sortir.
Oui, OK, ouais. Parfait. Puis, ben, comme on disait tantôt, il vient tout juste d'être mis en ligne. On a failli faire cette émission lancement sans rien avoir à lancer.
Oui, mais non, tout chaud.
Nous sommes lundi, on s'est parlé vendredi, blablabla, puis on a eu, pendant qu'on faisait notre petite entrevue, on a eu un courriel qui est arrivé, qui annonçait à Owen que c'était en ligne.
Mm-hmm.
Et c'était magnifique. Hein, c'était un moment merveilleux d'alignement de planète. Je continuerai peut-être pour les gens qui ne sont pas tous familiers avec qu'est-ce que sont tous ces types de représentations accessibles. Je ne sais pas si ça se dit à la radio, mais disons que du coup... Evelyne, on avait commencé à énumérer les différents types, et puis ben il y en a certaines que les auditeurs de Mission Vision sont plus au courant, parce que bon, en général, je m'adresse surtout au niveau des auditeurs non-voyants, malvoyants, parce que je parle plus d'accessibilité. Là, aujourd'hui, on élargit un peu, et puis on parle de différents types de représentations accessibles.
Mais c'est ça, je proposais peut-être de ne pas m'attarder sur les audiodescriptions parce que vous avez vous en avez sans doute parlé avec Maud et...
Avec Evelyne.
Avec
Evelyne, mais avec Erika.
Oui.
Un peu avec Marie Ayotte. J'ai quand même eu trois bonnes entrevues, je pense, avec des représentantes.
C'est ça, je ne veux pas dire... je ne veux pas répéter ce que ces grandes dames ont déjà dit. Le dirait mieux que moi. je peux parler peut-être des représentations décontractées parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est la différence entre une représentation décontractée et une représentation sensoriellement adaptée?
En fait, c'est
un petit peu la même racine. C'est simplement dans leur développement, leur origine, que ça diffère un peu. Les représentations sensoriellement adaptées ont été développées aux États-Unis, puis c'était vraiment s'adressait vraiment au public, jeune public autiste.
Okay.
Puis c'est vraiment dans le but de diminuer un petit peu les intensités de sensorielles qu'il pourrait avoir, soit dans l'accueil ou même dans le spectacle. Alors souvent, il y a un protocole où on baisse les niveaux sensoriels de son, de lumière,
aussi.
Ça d'à peu près 10-15% en salle, et puis on rend le milieu
l'ambiance.
Un peu d'accueil un petit peu plus... je dis des fois beige, là, tu sais, on essaie de niveler un petit peu de baisser les niveaux
d'intensité
de lumière et tout ça. Mais le protocole des représentations sensoriellement adaptées est pas mal semblable à celui des représentations décontractées.
Okay.
Les représentations décontractées s'adressent à des publics qui sont plus larges. Ils ont été développés davantage en Angleterre. Puis,
okay.
En fait, ça s'adressait d'abord au public autiste. Mais avec le temps, les représentations décontractées ouvrent davantage sur tous les publics qui ne peuvent pas accéder à des représentations qui sont faites de façon plus régulière.
Okay.
Donc, qui ont besoin, par exemple, de se lever souvent, de sortir de salle, qui ont besoin de parler durant la représentation, qui sont plus anxieux et tout ça. Puis, il y a des... par exemple, ça s'adresse aussi à des mères qui allaitent et tout ça.
Okay.
Donc, c'est semblable, c'est simplement qu'on s'attarde un petit peu plus au côté sensoriel dans les sensoriellement adaptés.
OK. Est-ce qu'on parle d'un public plus public jeunesse dans ce cas-là?
Non.
Ou ça se fait aussi?
Ça se fait pour les adultes,
okay.
Ça s'est d'abord développé pour le public jeune, pour le jeune public.
OK.
Ouais. Davantage, par contre, les représentations sensoriellement adaptées, c'était vraiment adressé, c'est parce que c'était une demande des publics scolaires et familiaux aux États-Unis.
Puis quand on parle de développer aux États-Unis, en Angleterre, on parle il y a longtemps, de quelle époque? Est-ce que ça fait 20 ans?
Non, c'est assez récent.
C'est récent.
Ça s'est développé un petit peu dans les cinémas au début, autour de 2006, 2005, 2006. C'est originaire. C'est une idée d'abord de parents d'enfantistes qui voulaient amener leurs enfants au cinéma. C'était une maman au Maryland qui a développé ça au début.
Okay.
Ça s'est étendu, puis c'est devenu une demande que des écoles ont faite pour Broadway, pour ce qui est des sensoriellement adaptés.
Ah oui, à Broadway. Oui.
Puis je pense que la première, je ne vais pas dire de niaiserie, là, j'ai pas la date en tête par cœur, mais... C'est autour de 2012 peut-être, dans ces eaux-là. C'est à peu près les mêmes eaux aussi en Angleterre, ça s'est tout développé comme à peu près parallèlement en même temps. Là.
Okay, OK.
Même, je pense, si c'est pas 2008 ou quelque chose.
Non, mais ça va.
Tu rectifieras dans une prochaine émission. Bonnes dates.
On n'est pas une émission spécialisée.
Non, c'est ça.
Ça va, non, mais c'est vraiment super intéressant, juste que justement, mettes un contexte quand même assez précis. C'est super.
Ce qui est important, je trouve, pour tous les types d'accessibilité, là, c'est que c'est important de penser l'accessibilité de manière globale, parce qu'une mesure que tu vas mettre en place, même pour des personnes non-voyantes, ça peut servir à d'autres gens qui sont...
Oui.
Il y a plein de représentations décontractées ou sensoriellement adaptées qui servent, par exemple, à des enfants qui sont très anxieux, des gens qui ont... toutes sortes de gens qui
ont... On parle de neuroatypiques, non?
Même toutes sortes de gens qui ont besoin d'avoir un contexte où ils sont plus encadrés, où ils sont plus adaptés, puis... Moi, je trouve que c'est à ça que ça sert aussi l'accessibilité.
On peut penser à quelqu'un qui est agoraphobe, par exemple.
Qui n'oserait
peut-être pas aller voir une représentation un soir de
exactement.
Un théâtre, mais qui, s'il y en a dans un contexte comme celui-là, peut se dire « je peux essayer
oui. »
puis
oui.
même développer de nouveaux publics.
Mais c'est intéressant, en fait, Evelyne, ce que tu dis, parce que c'est comme le principe de l'inclusivité inversée.
Mm-hmm.
Comme on fait un truc adapté, mais qui est ouvert à tout le monde, mm-hmm. puis on se rend compte que ça bénéficie à tellement de gens, en fait.
Oui.
Donc, c'est vraiment intéressant.
Mais même, je dirais, dans les représentations adaptées que je faisais dans mon milieu de travail il y a quelques années, on l'annonçait pour jeune public autiste au début, puis il y avait le quart de la salle qui était des adultes, puis on ne savait pas pourquoi ils étaient là, puis en les questionnant, ils nous répondaient tous que c'était parce que, tu sais, ils n'avaient pas accès, c'était la façon pour eux d'avoir accès à de l'art vivant, parce que c'était trop compliqué en contexte régulier, fait que on n'a pas idée des fois de ce que ça peut apporter à d'autres personnes. Et puis sûrement aussi, en jeune public, c'est pas rare qu'on fait des initiatives pour le jeune public autiste. Finalement, ça bénéficie aux classes régulières qui ont toutes sortes de personnes qui peuvent l'utiliser. Là.
Mais par rapport à ce que tu disais, Juan, est-ce qu'il y a aussi des représentations qui, justement, dans son accessibilité pour un public, va ne pas fonctionner? Est-ce qu'on peut...
N'importe quoi en accessibilité universelle, c'est utopique. T'sais. C'est sûr qu'il y a des adaptations qui ne vont pas convenir à une autre clientèle et tout ça, mais le but, c'est vraiment d'avoir le choix,
mm-hmm,
d'avoir de plus en plus de choix, d'adaptations, de spectacles et tout ça. À ce moment-là, je pense que là, on va atteindre la pleine. On ne l'atteindra jamais. L'accessibilité universelle, c'est un combat constant, là, parce qu'on est tellement différents. Il y a tellement de types, de que ce soit des limitations, que ce soit côté neurodivergence.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr qu'on va chercher constamment à essayer d'améliorer et d'inclure le plus de monde possible. Mais c'est sûr que des fois, il faut qu'on cible notre clientèle. À qui on veut parler pour ce spectacle-là? Puis c'est là qu'on va pouvoir adapter ça en bonne forme.
C'est drôle, mais j'y pensais pas en te posant la question, Anne, mais ça me rappelait une anecdote la première fois qu'on s'est rencontrés autour d'une table ronde. On a justement témoigné de deux expériences différentes par rapport à la place des arts.
Oui.
Moi qui adore la grande lumière, la luminosité de la place des arts, c'est un bonheur pour moi sortir à cette salle-là.
Oui.
Bon, Denise Pelletier, c'est ça.
Wilfried Pelletier.
Puis toi, tu m'avais raconté que ton expérience en fauteuil roulant est tout à fait contraire.
Ah oui, non, c'est clair. Moi, j'ai pas droit au lustre et au glamour de la place des arts. La rampe d'accès est sur le côté où il y a les balais, il y a les mops, il y a les. ces salles de bain, c'est super glamour pour monter. Il y a comme un petit ascenseur qui est comme tout rikiki. Puis, tu sais, je suis sûre que si la place des arts devait tenter, là, c'est là que le fantôme, il se cache.
Alors, c'est ça. Pour résumer, c'est que c'est le passage pour la personne en fauteuil roulant pour faire son entrée.
Oui, exactement.
Pour avoir accès à la salle de Wilfrid Pelletier.
Mais nous, on essaie de, justement, tu sais, comme dans l'accessibilité, on essaie de pousser ça un petit peu plus loin parce qu'on dit toujours, ah, mais tu y as accès. Je dis oui, mais je veux avoir accès comme tout le monde.
Ben
donc,
oui.
S'il y a les lustres, s'il y a la beauté de l'endroit, je veux en profiter aussi, tu sais.
Ben,
pas
ça.
Juste regarder ça sur une photo et dire « Ah, mais c'est le fun! » Tu sais, genre, j'y étais, mais j'ai pas vu ça.
Ben,
mais je suis sûre que tout le monde m'envie le backstage là, de,
ah, oui,
avec les mops. C'était une belle mop!
Bon, peut-être qu'à l'occasion, tu vas pouvoir tomber sur un acteur, une actrice.
Oh, peut-être. Pour l'instant, je garde la mémoire de la mop.
OK, plus
oui.
Passer par la salle de ménage. Que...
Exactement.
Ouais, non, c'est ça. Donc, ben, c'est un peu une anecdotique ce que je raconte, mais quand même, on peut imaginer que justement, peut-être une... pas imaginer, mais il peut arriver que peut-être une représentation qui est décontractée, il va avoir moins de lumière, donc pour une personne un peu malvoyante, ça va être... ça peut, mais
ouais,
bon.
Mais ce que dit Juan, la question de choix puis d'autonomie de choix, c'est vraiment ce qui ressort aussi dans les recherches.
Ouais.
C'est ce que les gens veulent, c'est pouvoir faire le choix de ce qu'ils ont besoin puis avoir le libre choix aussi d'aller. Parce que c'est pas parce qu'on offre une accessibilité, ça, des fois, on le dit, là, c'est pas parce qu'il y a un spectacle qui est offert de manière accessible que la personne est obligée d'y aller. Là. Le droit d'être un spectateur pour qui le spectacle lui parle ou lui parle pas. Là.
C'est ça, non.
Puis c'est d'où le choix qu'on a dans le calendrier, c'est vraiment pertinent pour offrir ce choix-là, cette possibilité de choix-là au public.
Exactement. Bien, on prend encore une petite pause, on revient. Ben, je reviens peut-être avec Juan, qui pourras nous parler peut-être un peu de ton parcours, ton travail aussi. Et puis, ben, on n'a presque pas parlé de ton projet de recherche. Il faut revenir sur ton projet de recherche, Evelyne, quand même. Très important. Fait qu'on vous revient après cette petite pause. Je suis en compagnie de Juan Nguyen de Altergo et Evelyne Payette, doctorante et chercheuse. C'est bon?
C'est bon. Appelle-moi comme tu veux.
À tout de suite.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Bien, de retour avec mes deux invités, Juan Nguyen de Altergo et Evelyne Payette, doctorante et chercheuse, et qui, disons-le, quand même, c'est quand même ta spécialité, l'accessibilité au niveau des arts de la scène.
Oui, ben, c'est ce qui m'intéresse.
Et puis, c'est ça. Peut-être qu'avant de parler à Juan, c'est juste que tu me glisses peut-être un petit mot. Je veux parler du parcours de Juan, comme on s'était dit hors micro. Et puis là, je suis en train de bifurquer de mon plan de match. Donc, c'est ça, on n'a pas eu le temps tantôt de juste me glisser un petit peu sur le projet de recherche. Je te pose la question en sachant un peu parce que j'ai participé à ton projet de recherche. C'est comme, on va parler de conflit d'intérêts ici, mais... si tu peux juste nous dire un peu.
Ben, je vais faire ça rapidement pour entendre la belle histoire de Juan, mais mon projet de recherche, il part du fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de... Il commençait à avoir une émergence d'initiatives avec peu d'implication des personnes pour qui ces initiatives-là étaient dédiées, en fait. Et puis, je voulais savoir, puis en travaillant avec les établissements culturels, en fait... J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup une hésitation, on ne savait pas comment faire, un malaise peut-être à le faire ou de ne pas savoir comment bien le faire. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est évidemment de parler d'accessibilité culturelle, mais de faire une expérience avec une institution culturelle qui travaille en collaboration avec des publics en diversité capacitaire pour l'amélioration de l'accessibilité. Donc, on a formé un comité. En fait, il y a du CEP qui a participé, mais il y a aussi Maison Théâtre qui a participé pour le jeune public. Mais on a fait un comité avec une quinzaine de spectateurs en diversité capacitaire, tout handicap confondu, parce qu'on voulait avoir une pluralité d'expériences. Et puis, Jean-Simon Traversy de chez Duceppe, qui est directeur artistique chez Duceppe, puis on a fait 3 cycles en salle, où on est allé voir des spectacles. Puis après ça, il y avait des... Autour de ça, parce qu'il y avait une réunion avant et après, mm-hmm. il y avait des échanges... sur l'accessibilité culturelle, sur l'expérience des personnes qui étaient du comité, puis aussi des idéations de solutions. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'on a mis en place certaines des solutions qui ont été suggérées par le public qui était membre du comité. Puis après ça, il y avait un retour sur ces solutions-là. Okay. Donc, ça a été un projet qui a été sur à peu près un an. Mm-hmm. Puis il y a une petite partie après complémentaire pour le jeune public qui a été fait à Maison Théâtre. Puis là, il va y avoir un podcast qui va être réalisé à partir d'une série là, de quelques okay. épisodes qui va être réalisé, qui va raconter un peu l'histoire de cette aventure.
Et ça va être ton...
Ma thèse?
Ouais, ta thèse.
Ben... Oh mon Dieu!
Pardon?
Et mon Siri qui est parti!
C'est ton lecteur d'écran.
C'est mon lecteur d'écran.
C'est ton voice-over.
Je suis désolée.
Les initiés
c'est mon discours intérieur.
les initiés comprendront oui. la ouais, blague.
En fait, il y a 50% de ma thèse qui doit être en diffusion des résultats de recherche. Okay. Puis il y a 50% qui est en thèse écrite. Okay. Donc voilà.
Je trouve que c'est important de le mentionner tout ça parce que finalement, c'est ton expertise. Qui fait que tu t'es joint à la communauté de pratique.
C'est ma curiosité et mon observation qui se sont joints, mais oui.
Mais ton expertise a fait que tu es embarqué sur le comité calendrier avec
Oane
et moi.
Oui, mais j'avais envie de collaborer, j'avais envie de mettre mon épaule à la roue. Moi, je suis la seule au comité de pratique, je pense, qui est comme pas... à part des membres de la diversité capacitaire qui sont là, qui n'est pas attaché à
t'es
une...
autonome.
Oui, je suis joueur autonome.
Joueur autonome, mais avec un gros salaire, parce que toute une feuille de route.
Mais c'est ça. Donc, je voulais collaborer. Je trouve ça important.
T'es la joueuse autonome qu'on est allée chercher pour faire les séries, là. Enfin, pour bien performer en série.
Je ne connais pas le hockey, Alain, fait que je ne veux pas commenter.
Ben, on va dire que la Coupe Stanley, c'est le calendrier là, qu'on vient de mettre en ligne.
C'est l'accomplissement.
Grâce à ton travail, puis grâce au travail donc de Owen qui justement, moi, avec le calendrier pour les personnes non-voyantes, ben, c'est par mon organisme, c'est mon regroupement, leur âme, que j'ai proposé de héberger ce calendrier-là. Puis ben, on s'est un peu servi de cette expérience-là pour faire un peu oui. la même chose avec Altergo qui s'est offert. Pour et puis, ben c'est ça, on a parlé tantôt, mais Altergo, comme je disais, est à la base peut-être plus vers les... Pas à la base, mais c'est quand même un organisme plus de promotion de l'accessibilité au niveau du sport,
et loisirs. Oui.
Puis toi, Owen, t'es arrivé là, et puis est-ce que tu dans ton poste, est-ce que c'est le genre de truc que justement tu peux prendre ce type de décision de dire hey, on va quand même s'impliquer dans un projet de culture, d'art et culture?
J'ai pas autant de pouvoir, je suis têtue.
C'est bon.
Donc, c'est sûr qu'au début, tu sais, on était comme, est-ce que c'est vraiment notre place de faire la promotion de la culture et tout ça, mais ça s'est fait organiquement. Ça s'est fait vraiment tout naturellement, parce que la demande était là, puis on a de plus en plus de théâtres qui font appel à nos services, que ce soit pour des formations, pour accueillir les personnes qui ont des limitations,
que ce soit
pour la rédaction de guides, pour aider à justement accueillir des enfants autistes, par exemple, ou des choses comme ça. Nous, on est très généralistes, donc on va consulter des spécialistes pour aider à monter ces outils-là.
Mm-hmm.
Donc, quand j'ai été appelée à siéger à la communauté de pratique, au début, c'était juste pour... comme voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait explorer, qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme outil. Puis au fur et à mesure, ça s'est juste fait tellement naturellement que quand le projet de calendrier est arrivé, j'étais comme, OK, c'est le projet, il faut que ça se fasse.
Super.
Puis j'ai été chercher des alliés à l'intérieur d'Altergo pour dire, OK, là, on va pousser pour avoir un peu plus de présence dans la culture.
Parfait.
Oui.
Ben, je pense que c'est ce qu'il faut.
Oui.
non, mais je pense à au rôle avec leur âme, on est plus en défense des droits, etc. Mais la culture est devenue un maillon important de notre travail, là, qui fait partie de nos plans stratégiques et tout. Puis j'ai la chance de collaborer à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis, des fois, c'est ça, je bifurque aussi. Moi, j'ai bifurqué vers les sports, vers les loisirs. Puis on me le dit, on me le répète quand même. Des fois, c'est pas tout à fait dans notre mandat, mais moi, je pense que c'est important d'élargir d'élargir pour les communautés, pour la communauté. Si on a des occasions, si on a des chances de faire de la promotion de projets qui sont tellement motivants, qui sont tellement intéressants, ben allons-y, tu sais, je veux dire.
Oui, puis c'est pas très loin non plus.
Non,
sport,
c'est ça,
loisirs,
c'est
culture, ça. C'est pas comme si tout d'un coup je poussais pour du biomédical, puis ça n'a aucun rapport, tu sais.
Oui, okay.
Mais c'est vraiment, tu sais, je trouve que ça va ensemble.
Okay.
Mais ça fait partie de la participation sociale.
Oui, absolument, puis c'est vraiment important.
Puis ben ton énergie, peut-être aussi, moi ça fait un an que je suis au RAM, toi ça fait seulement 2 ans, depuis que je te connais, j'avais l'impression que tu travaillais, tu maîtrises tellement bien tes dossiers, tout ça, j'ai l'impression, comme avec Evelyne, on a l'impression que tu travailles depuis des années, mais c'est pas le cas, ça fait seulement 2 ans que tu es.
Oui, ça fait juste 2 ans que je suis conseillère chez Altergo, mais tu sais, à l'intérieur de chez Altergo, on dit 2 ans d'expérience chez Altergo, ça équivaut au moins 5-6.
Ah hein, oui, OK.
Parce qu'on est constamment en train de lire, à se mettre à jour et tout ça, puis il n'y a pas de formation en accessibilité universelle.
Okay,
donc, on apprend sur le tas, on fait des erreurs, on se réajuste, mais c'est sûr que là, les politiques que j'ai rédigées au début quand je venais de rentrer, je relis ça aujourd'hui, puis je fais comme ça a tellement changé, tu sais. Puis ça évolue.
Qu'est-ce qui a changé? C'est ton analyse de la chose ou la réalité qui change rapidement en ce moment?
Les deux. Ouais, je dirais que là, les gens sont de plus en plus conscients de l'accessibilité universelle. Leurs demandes sont plus pointues pour une politique et tout ça. On est moins en train de leur nourrir, leur dire quoi écrire.
Okay.
Là, ils ont des demandes spécifiques. Ils savent ce qu'ils ont besoin. Avant, c'était un peu plus libre. Et moi, quand je venais d'arriver, je ne connaissais pas l'accessibilité universelle en tant que telle.
Mm-hmm.
Parce que ça ne faisait pas longtemps que j'étais en fauteuil roulant. Tu
sais. C'est ça, hein?
Oui.
Ça fait quoi, 5 ans?
Là, ça va faire 5 ans que j'étais en fauteuil roulant. Donc, avant ça, j'étais joaillière dans toutes les broderies sur les robes de mariée, les choses comme ça. C'était moi. Je faisais ça. Donc, l'accessibilité universelle, c'est 180 total vie. Ça n'a aucun rapport.
C'est trop fou.
Oui, complètement, oui.
C'est trop fou de parcours, disons.
Oui, le parcours. Mais en fait, c'est comme n'importe quoi. J'ai l'impression que ça s'est fait organiquement, ça s'est fait tout naturellement. Quand je suis sortie de l'hôpital, par exemple, c'était suite à une maladie que je suis devenue paraplégique. Et j'avais plus accès à mon atelier parce que c'est dans un ancien building industriel avec remont de charge et compagnie. Donc, j'avais déménagé l'atelier à la maison.
OK.
Et quelques mois plus tard, on a eu la super pandémie. C'est vrai que la vie a essayé vraiment de me lancer un message clair.
C'est fou, hein?
Ouais.
On a l'impression que c'est loin, mais plusieurs des entrevues que j'ai fait ici, l'importance de la pandémie quand même...
Ça a fait une méchante différence.
Un impact, en tout cas au niveau culturel, au niveau des arts de la scène, tout ça.
C'est,
puis, à plein niveau, mais... Cette pandémie-là a quand même... Donc, dans ton cas particulier, tu me racontais que c'est ça, tu travaillais beaucoup avec soit des joailleries pour les mariés, puis tout ça.
Oui.
Puis il n'y a plus de mariage.
Non, il n'y a plus de mariage. donc, j'étais
au
chômage durant le COVID. Et même après, les gens n'étaient pas sûrs parce qu'il y avait encore...
Ça l'a brisé, quelque chose.
Oui, ça a brisé quelque chose, puis ça a été super difficile à redémarrer. Puis, à ce moment-là, je passais une période difficile avec la paralysie où il y a un processus psychologique, mental et tout ça qu'on doit reconstruire, pas juste physiquement.
Le discours intérieur aussi.
Oui, le discours intérieur, exactement.
On y revient toujours.
On
en parlait tantôt hors d'ordre, mais disons que c'est ça. Il faut essayer de changer un peu notre discours intérieur.
Exactement. Puis c'est là qu'Altergo est...
Face à ce genre de situation.
Oui, c'est ça. Donc, c'est là qu'Altergo est rentré dans ma vie, en fait. Ils sont arrivés plus...
Par des connaissances?
Par des connaissances. Une de mes amies qui fait partie du CA de Altergo qui m'a dit, ils peuvent t'aider dans ce processus-là. Puis effectivement, ils sont arrivés. J'ai parlé avec une super para-athlète de basketball, Cindy Ouellet. Et elle m'a parlé avec tellement de franchise sur la réalité.
Est-ce que tu étais athlète un peu? Là? Peut-être qu'on pourra un petit mot tantôt.
Oui, mais j'étais vraiment sportive.
Avant,
je jouais au hockey, je faisais de la danse, je faisais du karaté, de la boxe, je faisais plein de choses. Donc, pour moi, une fois que j'étais en fauteuil roulant, c'était fini. Je pouvais plus rien faire. Puis, mais non, finalement, en parlant avec Cindy et tout ça, j'ai vu qu'il y avait des possibilités. Je connaissais pas trop le sport adapté à part les paralympiques. Puis là, mais en fait, maintenant, ça fait 3 ans, 4 ans que je fais du para-escalade.
Para-escalade. Ouais. Tu nous as glissé un mot tantôt là-dessus. Ouais, je connaissais pas, là.
Oui, oui, avec okay. Axe Grimpe. Donc, on est dans une équipe de 6 en ce moment. On s'entraîne.
OK.
Puis, on a une compétition, genre, en avril.
Est-ce que c'est un sport paralympique? Est-ce que...
Non, c'est pas un sport paralympique.
Est-ce que possiblement, on peut imaginer, parce qu'il y a vraiment une mode de fou, là, de l'escalade en ce moment, là.
Oui, bien, on essaie de pousser un petit peu, parce que le Québec est un peu en retard là-dessus sur le para-escalade. On n'était pas très reconnus.
OK.
Donc, on pousse un peu. On a eu notre toute première compétition au Québec, il y a seulement, tu sais, au mois de novembre dernier. Donc, avant ça, il n'y en avait pas du tout au Québec. Donc, on essaie de pousser pour que ça soit plus connu puis que les gens puissent en profiter. Là, c'est vraiment un beau sport. Ça donne...
Je ne connaissais pas. Mon fils fait beaucoup d'escalade.
Oui.
Il y a beaucoup de gyms en ce moment qui ont ouvert un peu partout sur les bancs.
Oui.
Je parle principalement en ce moment de l'île de Montréal.
Mm-hmm.
Mais il y a quand même une grande vague. Là. Je dirais qu'il y a une aussi grande vague d'escalade que de spectacles accessibles.
Oui, oui, oui.
On est vraiment dans un courant depuis un an ou deux, enfin. Mm-hmm. OK. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après 2 ans... je dis ça, t'as déjà écrit pas des dossiers, mais tu disais tantôt des...
Des politiques et des plans d'action pour les municipalités.
Et tout ça, cette expérience, quand même, écrire des politiques par rapport... Parce que t'étais joaillière, tu me dis quand même, depuis 2005, t'étais plusieurs années joaillière. Ouais. Est-ce que c'est dans la précision, dans le détail...
La créativité,
oui.
Des fois, on met pas beaucoup d'emphase sur la créativité quand on fait ce genre de travail-là, mais il faut être créatif pour trouver les solutions. Des fois, on a l'impression que c'est tellement compliqué de régler un problème, mais il s'agit juste de réfléchir un petit peu à l'extérieur de la boîte, puis il y a des adaptations possibles, il y a des façons de faire, il y a une solution pour tout. Donc, dès qu'on réfléchit un petit peu plus, là, on trouve ce qu'il faut.
OK.
Ouais.
Puis, on a parlé un petit peu tantôt, on parlait de, justement, pour la pérennité du calendrier. C'est ça, on va être peut-être en recherche de financement, tu disais, justement, avec toutes tes...
Donc, on a un département de financement chez Altergo que les filles travaillent très fort pour trouver du financement pour des beaux, beaux projets. Et elles sont vraiment motivées à trouver ce qu'il faut pour le calendrier puisse continuer dans le temps puis que ça se mette à jour. Okay. Puis c'est vraiment un projet pilote parce qu'après ça, on voudrait étendre le calendrier culturel au calendrier d'événements culturels ou d'événements sportifs, mais adaptés.
Okay.
Donc, ça soit comme deux calendriers, un calendrier pour les événements sportifs.
Il n'existe pas de calendrier d'événements sportifs par...
Pour l'instant, non.
Okay.
Donc, c'est pour ça...
C'est vraiment intéressant. C'est vraiment super.
Ouais. Donc, c'est là qu'on s'est dit, écoute, tout est dans tout.
Okay.
Donc,
on prend encore une petite pause, une petite dernière petite pause, puis on revient, puis on peut justement parler d'avenir, de calendrier, puis de recherche, de maîtrise, de doctorat.
On fait une révérence chaque fois qu'on parle d'Evelyne.
Ah, c'est ça.
On penche notre tête, là, on fait une révérence chaque fois.
Fait que, on revient avec Oane, Nguyen d'Altergo et Evelyne Payette. Bien, vous êtes toujours à Mission Vision. C'est notre 7e épisode et nous parlons aujourd'hui du lancement d'un nouveau calendrier de culture accessible avec mise en ligne grâce à Altergo et qui provient d'une initiative de la communauté de pratique dont j'ai déjà parlé dans des épisodes de... précédente. Et puis voilà, on parlait justement avec Oane Nguyen de Altergo. On parlait du fait que votre organisme est quand même beaucoup axé sur un beau projet qui est le défi sportif qui est en sa combienième édition?
41e.
C'est ça, on fêtait quand même le 40e l'année dernière. C'était pas, c'était pas rien.
Ouais.
Et puis, ben, je pense que ça s'en vient encore. Ça vient vite, hein,
j'imagine. Oui, ça vient vite. Là, c'est l'effervescence dans les bureaux, là, surtout dans le département du défi sportif, justement. Moi, je suis dans le département des geeks, tu sais, je suis dans l'expertise.
OK.
Mais du côté du défi sportif, là, ça commence à... Tu sens l'effervescence, l'excitation qui monte, parce que ça va avoir lieu le 26 avril
okay.
jusqu'au 5 mai. Donc, on reçoit 6 000 athlètes cette année. Donc, ça va être un bon événement. Puis, si on se fie à l'an dernier, on avait 26 pays participants. Donc, si on se fie à ça, on va encore avoir le même nombre cette année.
Okay.
C'est vraiment un bel événement, là. Vraiment. Ça vaut la peine de venir faire un petit tour.
Ben oui.
C'est au Centre Claude Robillard.
Principalement.
Pardon?
Tout seulement au
Centre? Non, pas tout, mais la majorité. Si vous voulez voir des bouts de choux compétitionnés, là, c'est Centre Claude Robillard. Puis, c'est là qu'il y a le plus d'action, mais on a d'autres sites pour d'autres types de compétitions.
Okay.
Mais le cœur, c'est au Centre Claude Robillard.
Est-ce qu'il y a, je sais que c'est vraiment, on est dans un mélange hein, de sport de compétition et de sport plus loisir, si on veut, là, dans le sens qu'il y a quand même il y a un volet compétition, si je ne me trompe pas.
Oui, bien, en fait, c'est une compétition. Les enfants, que ce soit les enfants ou les adultes, ils se sont entraînés toute l'année pour compétitionner.
Okay.
Mais il y a, le volet scolaire, le volet amateur et le volet élite.
Élite, c'est ce que je me suis mal exprimé. Mais c'est ça, donc c'est ça, il y a un volet élite.
Oui, exactement.
Et puis, si je ne me trompe pas, ce sont des compétitions qui sont homologuées, qui servent, qui servent aux Olympiques, aux Paralympiques, qui servent est-ce qu'ils sont dans le cheminement de certains élites?
Non. Ben, ça peut être un bon point de départ.
Okay.
Donc, il y en a des athlètes qui commencent au défi sportif quand ils sont jeunes.
Okay.
Et une fois qu'ils sortent du réseau scolaire, mais ils vont continuer dans le sport dans lequel ils ont pratiqué. Donc, ça fait vraiment un beau parcours à ce moment-là. Puis, ils vont se rendre, que ce soit aux Paralympiques ou aux compétitions internationales.
OK.
Oui.
Puis tantôt, tu parlais de votre département là, de recherche, de financement, tout ça.
Oui.
Grosse partie de votre financement, des recherches sont faites, entre autres, pour le défi sportif, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est beaucoup pour le défi sportif, mais il y a aussi, franchement, maintenant, beaucoup pour l'expertise aussi, parce qu'on développe des outils. Et on veut justement faire un partage des connaissances, donc être en mesure de justement partager le plus possible, que ce soit les bonnes pratiques, que ce soit des outils qu'on développe pour d'autres projets, mais qu'on trouve ça dommage, que c'est tellement restreint.
Mm-hmm.
Parce que le but de l'accessibilité universelle, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai du mal à dire le mot, accessibilité universelle, c'est de pouvoir le partager. On ne peut pas être égoïste avec l'accessibilité universelle.
Effectivement.
Donc, c'est sûr que notre but ultime, c'est que ça soit partout, puis que tout le monde connaisse ça, puis on va tanner les gens avec nos outils,
mm-hmm.
on va tanner les gens avec notre discours, puis dire comme c'est vraiment essentiel. Parce que les gens, souvent, quand on parle d'accessibilité, ils pensent aux personnes handicapées, mais ils ne pensent pas qu'une fois qu'une adaptation est faite, tout le monde s'en sert. Qui, au début, disait genre, mais tu sais, les sous-titres, des choses comme ça, c'est fatigant. Mais maintenant, TikTok, toutes ces vidéos-là, il y a des sous-titres parce que les gens veulent regarder ça au travail.
Ouais.
Mais même Siri, tout à l'heure, justement, qui s'est activée, mais c'était une technologie pour les gens qui en avaient besoin. Maintenant, mm-hmm. tout le monde utilise la dictée vocale.
Ouais.
Le voice-over, c'est pareil, c'était pour les gens qui ne pouvaient pas voir.
Ben, c'est ça. Ouais,
mais maintenant, combien de gens l'utilisent juste parce qu'ils sont en train de faire autre chose puis ils veulent quand même lire l'article, donc ils mettent le voice-over sur leur téléphone.
Effectivement.
Donc, il faut arrêter de penser que l'accessibilité universelle, c'est juste pour les personnes handicapées. Tu sais, c'est vraiment pour tout le monde.
Effectivement. Mm-hmm. Puis aussi de penser que ce n'est pas un fardeau supplémentaire à mettre sur les épaules de codeurs pour l'accessibilité web, ou les gens qui font les concepteurs ou dans différents milieux. Tu parlais tantôt d'adaptation, je veux dire la rampe pour un fauteuil roulant, qui maintenant n'utilise pas, et plein de gens l'utilisent là.
Oui, et bien, une maman avec la poussette.
Ben, une maman avec une poussette, une personne plus âgée, quelqu'un de pressé, tu sais, je veux dire, non, mais c'est vrai.
Oui.
Je pense qu'à la base, ou à l'origine, les gens devaient être, il faut dépenser, il faut les foutus rangs, puis on n'avait pas prévu ci, on n'avait pas prévu ça à faire ça, puis blablabla, mais on se rend compte à un moment donné que c'est ça peut servir à plus que le public visé.
Oui, exactement.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, ben, justement, tu me disais quand les premiers contacts que tu as eus avec... Altergo, c'est que tu as participé à des marches exploratoires, c'est ça?
Oui.
Justement, c'est pour aller vérifier l'état de l'accessibilité d'édifice au niveau physique, hein, en gros.
Oui. Okay. Oui, en gros, c'est ça. On est souvent un groupe avec différentes limitations. On va arriver dans un endroit à analyser, puis on va juste dire c'est quoi les obstacles qu'on rencontre en naviguant dans cet endroit-là.
OK.
Puis ça suit d'un grand et beau rapport qui dit, ben, il faudrait une rampe ou il faut des plaques podotactiles parce que pour traverser la rue, c'est dangereux ou... des choses comme ça. Donc,
parfait. Ouais. Puis, est-ce que, c'est ça, ma question, c'est surtout, au niveau qui commande, est-ce que c'est des démarches que vous faites auprès d'édifices ou d'institutions, tout ça, ou c'est les institutions qui viennent vous voir, disant, nous, on a vraiment besoin de mettre à jour notre édifice, notre...
Oui, bien, c'est le plus les gens qui viennent nous voir. Nous, on ne fait pas de démarchage.
C'est pas votre...
Oui, donc ils viennent nous voir, dire, OK, nous, on a eu des plaintes, souvent, ça part de là. On a eu des plaintes comme quoi c'est pas accessible, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais nous, on n'est pas normatif. Donc, le code du bâtiment et tout ça, c'est pas ça qu'on utilise, mais c'est plus l'expérience humaine.
Parfait.
Donc, oui, on a accès, mais est-ce que c'est la porte principale? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que des choses comme ça?
OK. Et puis, le défi sportif, c'est ça, on parlait tantôt avec Evelyne. Nous, on n'a jamais assisté, je pense que ça serait...
Oh, mais vous êtes invité, vous êtes sur la liste d'invités, vous devriez recevoir bientôt.
OK, c'est vrai, hein, tu nous disais...
Oui,
ben,
oui,
on
moi, est ça... chanceux.
Ouais,
pour venir vivre ça au moins une fois.
Ben oui, je pense. Puis ben les autres, peut-être tu parlais, oui, c'est ça, quelques-uns des sports, là, peut-être les plus, les sports qui sont peut-être, je sais pas, peut-être mieux mis en vedette ou qui sont les plus populaires.
Le boccia, il est populaire.
Okay.
C'est là que la compétition internationale, justement, avec la vingtaine de pays, avec les athlètes internationaux qui arrivent, ça c'est vraiment impressionnant. Ça vaut la peine de voir.
Est-ce que tu peux l'expliquer quand même?
Le boccia, c'est comme la pétanque.
Je ne connaissais pas, il n'y a pas longtemps.
La pétanque, mais adaptée. Donc, il y a une espèce de glissoire où les personnes peuvent faire glisser leur balle et tout ça. Mais c'est vraiment impressionnant, mais ils sont très, très précis. Puis le public est là aussi, c'est le fun.
Ah ouais,
l'ambiance est vraiment nice.
OK.
Pour ce qui est... C'est sûr, moi, j'ai un petit...
Faible
pour le volet scolaire, parce que c'est les petits bouts de chou qui... Okay. Qui compétitionnent, puis ils sont tellement compétitifs, là, puis c'est leur journée, puis ils se sont entraînés pour ça, ils la veulent, la médaille. Donc, quand je vois les courses, par exemple, il y a des enfants qui sont avec leur marchette, puis tu vois, c'est l'effort dans le visage, puis quand ils arrivent, tu sais, puis ils crient comme... comme ce sont des athlètes, donc
c'est
sont la victoire et tout, et le moment de recevoir la médaille.
Okay.
C'est vraiment des moments qui sont magiques. Moi, ça m'a changé.
Ah, ouais.
sans exagérer, assister à ça, ça m'a vraiment changé. Là, j'ai des frissons juste en parler parce que c'est tellement une ambiance qui est électrisante. Puis les gens ont peur que quand j'en parle, tu dis, parce qu'ils font pitié ou c'est cute parce qu'ils sont handicapés. Je dis non. C'est de l'espèce de force qu'ils ont, de l'espèce de joie de vivre.
C'est l'enthousiasme aussi.
C'est leur journée, tu sais. Puis nous, on est là pour eux autres. C'est pas là. Puis pas pour eux autres dans le sens de genre, il faut qu'on les aide. Non, c'est pour les célébrer qu'on est là, tu sais. Puis on leur sent, puis c'est vraiment spécial.
Puis c'est une motivation pour le restant de l'année pour eux aussi.
Oui, exactement.
Savoir de leur participer l'année prochaine, puis de s'entraîner, puis de...
Mais souvent, quand l'année scolaire commence, ils vont demander c'est quand le défi sportif. Là.
OK, OK.
Puis c'est ça.
Donc, puis au niveau élite, est-ce qu'il y a des sports plus compétitifs que d'autres, où il y a plus d'une plus grande participation, ou le Québec, le Canada,
ben, il y a le para hockey. Il y avait la partie... L'an dernier, il y avait les États-Unis contre le Canada qui avait lieu durant le défi sportif.
Et c'était vraiment...
Ouais.
On s'entend, on est sur des joueurs qui n'ont pas de mobilité aux jambes.
Oui,
général,
c'est ça. Du hockey luge.
Ils
sont vraiment impressionnants aussi à regarder. Moi, je regarde ça, puis je suis comme trop dedans.
C'est rapide.
C'est
rapide, puis c'est...
Ils niaissent pas, là. OK.
Puis, ben écoute, le temps file. Peut-être je me retourne vers Evelyne, puis tes projets...
On dit Monseigneur, Evelyne.
Oui.
Docteur.
On a établi qu'on disait mon
Seigneur. Est-ce que t'es docteur?
Non, je ne suis pas encore docteur.
Tu n'es pas encore docteur? Non, je ne peux pas t'appeler docteur.
Non.
Payette. Donc, mais c'est ça, une fois que ça va être rédigé, accepté et tout, donc tu vas être docteur.
Oui, mais je ne pourrais pas te prescrire de
Non, rien pour ma vue.
Non, Alain, je suis désolée.
Okay. Rien pour m'accorder, mais sérieusement, donc, tu disais, tu prépares des podcasts pour une partie des résultats de ta recherche.
Ben, moi, ce que j'aimerais,
c'est
parce que l'idée de la recherche, c'était vraiment que ce soit les publics en diversité capacitaire qui parlent de leur expérience. Mm-hmm. Donc, je trouvais ça a changé un peu de forme plusieurs fois, mais le podcast, c'est la façon la plus facile de faire aller ce discours-là, puis que ça soit pas nécessairement centré sur moi. Là.
Ben, c'est pas si facile que ça, un podcast.
Non, je sais, non,
c'est
mais.
Beaucoup de préparation.
Je dis pas ça dans ce sens.
Non, je blague.
Non, maître Alain. Mais,
non.
Mais après, ce que j'aimerais beaucoup, par exemple, c'est continuer la recherche parce qu'en recherche qu'on a fait, là, ce qui est sorti beaucoup, c'est le bénéfice de la médiation pour l'accessibilité. Puis il y a beaucoup d'avenues qui sont intéressantes là-dedans que j'aimerais explorer. Okay. Donc voilà.
Il va peut-être y avoir des représentations accessibles chez Ducep suite à ta.
Ah, ça, c'est Ducep qui décide, mais
donc,
on se croise les doigts.
J'inviterai le public à surveiller donc le calendrier des représentations accessibles qu'on retrouve maintenant sur le site de Altergo. Vous allez dans « Événements ». Et puis, ce calendrier qui est maintenant en ligne, grâce, entre autres, plus spécifiquement grâce à Ohan Nguyen de Altergo, et Evelyne Payette, bravo pour ce magnifique travail et puis à une prochaine, peut-être à une salle de spectacle.
Merci,
oui, Alain. Merci, Alain.
Bye-bye, merci.
Cette émission est une production de Canal M en partenariat avec le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.